Allez, va.
Ne me brusquez pas, hein, vous ne me brusquez pas. Alors, on y va. Sel. Dépêchons-nous, parce qu'après, ça sera trop tard. Ça se meurt, là. Non, pas là. C'est curieux, quand même.
J'accepte les régimes, mais pas les manies.
Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Corneille?
J'adore les sujets. Les gens ne savent pas ce qui est bon. Les gens ont un trou dans le ventre et ils remplissent ce trou de merde.
Il n'y a rien à faire, c'est comme ça.
Et la cuisine, hein, c'est le salaire qui ne demande pas. On peut se gourer sur la peinture, sur la musique, mais sur la bouffe, pas d'histoire. C'est bon ou c'est mauvais.
Oh, du dessert, c'est une bûche?
Non, c'est clou.
Bonsoir à tous et toutes, c'est De Bouche à Oreille en direct sur Studio Zef. Une émission dédiée à la popote, la boostify, la manja et la ripaille, bref, tout ce qui fait vibrer n'importe quel humain qui se respecte, et particulièrement le français, j'ai nommé la gastronomie. Et c'est avec une joie non dissimulée que je vous annonce ouvert ce troisième opus de Bouche à Oreille, à l'heure où les casseroles teintent et les cuillères s'agitent dans la cuisine. Fidèle au poste pour m'accompagner durant ces 60 minutes dédiées à la popote, mes fidèles camarades attablés, Yann.
Bonsoir à tous.
Salut Yann. Alors tu n'as toujours pas chaussé tes lunettes, j'espère que ça ne va pas trop te poser problème tout à l'heure. Mais j'ai vu que tu as imprimé ta chronique encore 15 et demi.
Ouais, même 16 hein, je crois, parce que en fait, j'ai cassé mes lunettes la semaine dernière, donc j'avais vraiment pas le choix. Voilà.
Très bien. Donc on comptera sur Yann un petit peu plus tard. Marie, notre spécialiste S20, qui nous parlera Petnat d'ici un petit quart d'heure. Salut Marie.
Bonsoir Alice.
Véro, qui clôturera l'émission avec les souvenirs culinaires d'enfance d'un certain Thomas Grappi. Salut.
Bonsoir
Véro.
Bonsoir à tous.
Et Jérémy, à la technique et à la programmation musicale. Salut Jérémy. Alors dites-moi, camarades à t'appeler, à 15 jours des fêtes de fin d'année, j'espère que votre repas de famille est fin prêt, que d'un des huîtres sont commandés, que le foie gras maison est au frais et que la bûche à la crème n'attend que plus que vous à la boulangerie du coin. Quant au grand cru, champagne, Bordeaux, cela va de soi. À moins que, non, ni dinde, ni huître, et encore moins du champagne. Non, ne me dites pas que vous faites fi de la tradition culinaire française, camarades à t'appeler. Et vous, chers auditeurs, vous mangerez quoi pour les fêtes? Eh bien, c'est de ça que nous allons discuter. Saumon fumé ou salade de quinoa, dinde ou bar, mandarine ou bûche, tel est le dilemme du moment. De quoi lancer un débat animé, croyez-moi. Pour nous accompagner dans cette discussion, nous avons aujourd'hui avec nous en studio Pascal Potter, vigneron à Faverolles-sur-Cher au domaine Les Capriades, éminent spécialiste du Petnat avec ses incontournables pièges à filles dont il nous parlera tout à l'heure avec Marie. Pascal est également un cuisinier réputé d'après les bruits qui courent. Bonsoir Pascal.
Oui, oui, oui. Bonsoir Alice.
Et bienvenue. Alors avant de démarrer le débat, chers camarades attablés, eh bien, qu'avez-vous apporté comme bon plan dans votre panier?
Ouais, les bons plans sont d'une boulangère qui fait des pains nature. Elles sont fournies, elles sont à Serré-la-Ronde, donc pas très loin de chez moi. Elles vendent deux fois dans la semaine au marché de Blois le samedi matin. Et puis également le mercredi à Montrichard, aux alentours de 16-17 heures, me semble-t-il.
C'est un marché de l'après-midi?
Oui, ce n'est pas un marché, je crois que c'est un endroit qui ouvre... Il y a Jérémy qui me susurre quelques mots vers 17 heures le mercredi. Voilà, en plein milieu de Montrichard jusqu'à 19h30, voilà exactement. Si vous voulez du bon pain, faites avec des bonnes choses.
Et elle s'appelle comment, cette boulangère?
Elle s'appelle Sarah Bertin, Mademoiselle B. Mm-hmm. Et vous pouvez voir son joli et doux visage sur un... ce qui ne gâche
non,
rien.
Non, c'est ça.
Que si elle était moche, j'en parlerais pas, en fait.
Mais c'est bien, c'est ça. Ouais. T'as dit quoi tout à l'heure, en micro? Pas d'atteinte au physique.
Pardon. Non, c'est parce qu'elle m'écrivait sur le visage Marie tout à l'heure. Mais ceci, elle est en couverture du livre Tronche de pain aux éditions de L'Épure.
Ah, mais tiens, ça oui. Alors
ouais, c'est fou, hein.
Ouais. Voilà.
Il y a plein de portraits de boulangers, dont Sarah.
Ça, c'est Sarah Bertin est au boulanger, ce que Noëlla Morantin est au vigneron. C'est-à-dire que les journalistes ont compris qu'il y avait des jolies nanas qui faisaient des bons produits.
Ouais.
Du coup, ils les mettent dans tous les magazines désormais.
Ouais, carrément, Alice.
Marie, ton bon plan?
Alors, mon bon plan est aussi une très belle, très, très jolie femme, très belle d'esprit et de visage. Bref, dans ces temps agités, Et à l'approche de fêtes de fin d'année, mon coup de cœur est un appel à la contemplation, à la beauté de la nature et de ce qu'elle inspire dans les arts. Il est suscité par les céramiques de Anne Drujon. Diplômée de l'école d'arts appliqués d'Olivier de Serres à Paris et de l'école de paysage de Blois, elle a exercé le métier de paysagiste une dizaine d'années. Puis passionnée par la céramique, elle a décidé de vivre de cet art. Ces céramiques sont essentiellement composées de terre et d'émaux, tirées de sa propre palette de couleurs. Certaines ne sont pas émaillées, mais recouvertes d'une couche d'engobe, animée parfois par un dessin qu'elle a imaginé. Anne fabrique surtout des bijoux en porcelaine, mais aussi des tasses, des bols, des assiettes et des beurriers à la forme ronde épurée qui ont l'intérêt de conserver le beurre sans frigidaire. J'en fais l'expérience, il est super. Toutes ses créations sont imprégnées de sa sensibilité pour les végétaux, la nature, les figures abstraites ou réalistes de paysages. Chacune est unique. Vous pouvez retrouver son univers beau, doux également et poétique sur ses profils Instagram et Facebook au nom de Anne Drujon Céramique. Et bientôt sur son site internet www.annedrujon.com.
Et puis personne dit www.
Mais quoi,
mais Marie découvre l'internet, qu'est-ce que tu veux, c'est
http
slash. On dit quoi?
En tout cas, moi ce que je note, c'est que si on veut conserver le beurre sans frigo, faut qu'il y ait un beurrier rond et ça change tout, c'est ça?
Pas forcément rond, mais un beurrier qui permet de mettre le beurre dans de l'eau, de le laisser tremper dans de l'eau. Il tient dans le beurrier en céramique.
J'ai compris la subtilité.
Voilà, c'est le premier frigo.
D'accord.
Voilà, et ça se conserve très très bien, et c'est super pour étaler son beurre sur les tartines, okay. Puisqu'il est déjà un peu ramolli, il est onctueux, tout ce qu'il faut.
Sublime. D'accord, très bien. Véro, ton coup de cœur.
Moi, c'est une bande dessinée qui s'appelle La Passion de Dodin Bouffant, de Mathieu Burnia, aux éditions d'Argo. Et en fait, c'est inspiré, librement inspiré d'un roman. Qui s'appelle Dodin Bouffant, voilà, tout simplement. Et en fait, il a été publié en 1924 et ça raconte l'histoire d'un monsieur qui aime beaucoup, beaucoup manger, beaucoup, beaucoup cuisiner. Et il est aidé pour cela d'une cuisinière hors pair et malheureusement, cette cuisinière décède et il faut qu'il trouve une remplaçante et voilà, c'est ça l'histoire. Et alors, il y a à la fin de cette BD, vous pouvez avoir la recette. Alors, attendez, excusez-moi, je cherche des bouchées de Saint-Marcelin aux morilles. Voilà.
Mmh. Bah, rien que pour la recette, tout le monde va se précipiter dans sa librairie ou à la
alors,
bibliothèque.
La passion de Dodin Bouffant. De Mathieu Burnia. Voilà.
Merci Véro. Pascal, un bon plan?
Alors moi je vais vous parler de Larsou Yaren, un ami qui s'appelle Chris. Et donc ça fait partie des références, je pense, sur Rennes maintenant. C'est rue Paul Bert, 16 rue Paul Bert.
Est-ce que c'est la fameuse rue de la soif ou
Non, mais c'est non, pas. Ça peut en être une par moment.
C'est un restaurant bar à vin.
Voilà, c'est un restaurant. Resto bistrot. C'est un ancien bar qui a été aménagé en bistrot restaurant. Donc voilà, avec de la cuisine fraîche, des vins nature évidemment, puisque les gens qui connaissent Chris savent que c'est un des ambassadeurs des vins nature sur Rennes.
Depuis un moment,
plus de 20 ans, eh on oui. va dire, oui. Donc,
c'est le premier à Rennes, un des premiers.
Un des premiers. Oui, faut pas oublier le tire-bouchon quand même.
Oui. Et puis il y a des cavistes aussi.
À avoir servi des vins nature.
Ouais.
D'accord.
Oui, bien sûr, il y a le tire-bouchon.
Donc Larsouille, rue Paul Bert.
Voilà, 16 rue Paul Bert à Rennes.
À Rennes, très bien. Et ben écoutez-moi, mon coup de cœur, c'est le Cul Doré à Montrichard. En fait, j'ai découvert ce bar à vin restaurant complètement par hasard cet été, alors que je cherchais un endroit où dîner sans chichi. Et j'avoue que ça a été une belle trouvaille. Cave très bien fournie à prix abordable, cuisine simple et franchement sympathique. Alors bon, ça casse pas des briques, hein, des cocottes, des salades, des planches apéritives, mais quand on veut juste grignoter, c'est très bien. L'accueil au top, surtout pour qui aime discuter vin. Quant au lieu, eh ben, ce qui est bien, c'est que loin des lieux surfaits qui peuplent nos campagnes, il est franchement chaleureux, pierre de tuffeau, bois, bar accueillant à l'entrée. Bref, c'est pas du gastronomique, mais pour boire un verre et grignoter un morceau, c'est juste ce qu'il faut. Et c'est donc le Cul Doré, du nom d'un papillon nocturne, et c'est 66 rue Nationale à Montrichard.
Il y en a Vera, le capuchon de sphère fille, les deux la vie à moitié pris en courbouillon. Tous les poulets du HIV en transfusion. C'est des produits, on en avait ras le capi. Tout est nickel et rien à revoir, faut surtout pas couper le cordon ni la télé intraveineuse. Des magogies, des gamogies, des plus véreuses. Tout va si bien, serait trop con, faut surtout pas toucher à nos acquis scellés, nos patrimoines. On s'est battu, l'oubliez pas dans vos chansons. S'il y a de la soupe dans vos gamelles et de l'avoine, c'est que le bon Dieu l'a bien voulu, il est si bon.
Du sel dans les pantalons, du beurre dans les haricots, de l'eau pour se laver la peau, du sang pour cracher les mots, la voix pour gueuler plus haut, des fleurs pour t'aider bientôt, du ciel pour les animaux.
Y'en a qui naissent moins bon que les autres, mais c'est normal. On n'est pas tous apparus dans le même salon. Tous les lépreux, les petits nimbus et les couillons. Et les élus de la nation, du capital. Faut circuler, y'a rien à voir, faites-nous confiance. On s'y connaît, on vous promet des vies heureuses. Démocratie, des crames aussi, des plus frileuses. C'est nous les rois du bataillon de la finance. Alors votez pour nos partis et sans surprise, vous y trouverez que du blanc bec et du pognon. J'y ai laissé mon pantalon et ma chemise. Tout ce qu'on vous demande, c'est de nous envoyer vos dons.
Du sel dans les pantalons, du beurre dans les haricots, de l'eau pour se laver la peau, du sang pour cracher des mots, la voix pour gueuler plus haut.
Les castagnettes, si les tranchées t'ont pas suffi, je connais une zone. Il semblerait que les séismes et les cyclones n'assouvissent pas nos fringales de marionnettes. C'est nous les rois de la conso et de l'outrance. On n'y peut rien, c'est le destin qui nous arrose. Vu que le destin ressemblait à si peu de choses, des gobillons, cette pâtée qu'on recommence.
À oreille.
L'émission qui fait manger des épinards.
Et c'était Patalo des Têtes Raides. Alors, ferez-vous des patalos pour Noël? Je ne sais pas. Après tout, ça peut être sympathique. Hein. Mais si on commençait par l'entrée, alors, huître ou saumon fumé, foie gras ou coquille Saint-Jacques?
Bah, tout.
Tout? Ah, mais non. Dans quel ordre?
Bah, des huîtres en premier, peut-être, non? Ouais, c'est sympa, d'accord. Pour l'apéro, les huîtres.
Ah, pour l'apéro, carrément?
Ouais, moi, je commence avec des huîtres.
Et, alors...
et puis, on continue l'entrée avec les huîtres sur la table.
D'accord. Et alors, les huîtres, on les mange comment en Islande?
Alors en Islande, on ne mange pas beaucoup d'huîtres. Non, mais je ne suis pas islandais. Hein, je,
oui, bah, tu as vécu en Islande.
J'ai vécu en Norvège.
Mais, en Norvège, pardon.
Il n'y a pas une tradition d'huîtres là-bas. Hein, c'est pas du tout. D'abord, il n'y a pas de marée
c'est
là-bas. Donc, c'est un peu difficile d'avoir des parcs à huîtres par rapport à la Bretagne ou
à
toute la côte ouest de France.
Normandie aussi.
C'est quoi la Normandie? Je n'ai pas entendu parler.
Yann est breton.
Non, mais... les huîtres pour moi c'est soit nature sans rien, comme ça on les ouvre et puis voilà, ou alors une petite mignonnette c'est juste des échalotes finement ciselées dans du vinaigre de vin rouge, ou alors un petit filet de jus de citron.
J'ai appris, moi qui suis de Loire-Atlantique, on les mange forcément là-bas avec du vinaigre rouge et voilà, ouais. Et alors j'ai appris que certains appelaient ça la nantaise. Je ne connaissais pas la mignonnette, et oui, un jour on m'a dit, tiens, tu les manges avec la nantaise.
Ah, je connaissais pas.
C'est avec du vin blanc, du muscadet ou...
Non, du vinaigre.
Du vinaigre.
Du vinaigre de vin, oui.
Non, enfin, certes, on revendique le bon goût du muscadet, mais enfin, non, mais pas partout non plus. c'est du vinaigre de vin rouge avec de l'échalote et un filet de citron, des fois que ça aurait encore goût d'huître, paf.
Je pense le plus simplement possible pour les huîtres. Moi, je recommande toujours les huîtres, de bien les acheter au minimum une semaine avant de les consommer.
Ah bon?
Ouais,
ah bon,
tout à fait. Alors, quand je vais. Ma mère habite sur la baie de Saint-Brieuc et il nous arrive d'aller chercher les huîtres sur les rochers directement. Alors, ils sont délicieuses. On les prend au marteau et avec un petit tournevis ou un petit pic comme ça pour les décoller. Il nous arrive, quand on en prend une centaine, on en casse forcément une trentaine. Donc, on les mange directement sur le rocher comme ça, sans rien. À moins qu'on ait apporté sa demi-bouteille de muscadet, ce qui est possible. Mais lorsqu'on les prend sur les rochers, une semaine après, elles sont meilleures. Elles refont leur eau, elles se battent dans la coquille, elles deviennent un peu plus grosses et plus charnues à l'intérieur de leur coquille.
Ah oui, par contre, ce ne sont pas des huîtres fines. Hein.
Alors forcément, les huîtres sauvages sont complètement différentes des huîtres qui vont être calibrées par l'ostréiculteur. Ça, c'est une méthode totalement... c'est un métier à part entière. Là, elles sont affinées selon le souhait de l'ostréiculteur. Sauvages, elles seront pas...
Elles sont plus épaisses, plus...
Tout à fait. Mais néanmoins, je recommande quand même qu'on achète quand même les huîtres au moins minimum une semaine avant. Elles ont un meilleur goût, elles sont plus charnues de toute façon.
À part les huîtres, vous prenez quoi, vous, en apéro entrée?
Pascal, pour voulait rebondir sur les huîtres.
Moi, je voulais parler des huîtres parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça non plus. Et pocher dans leur eau, c'est une façon de peut-être pouvoir découvrir...
Pocher dans leur eau,
autrement, simplement les cuire un tout petit peu,
chaude,
quelques secondes. Et je pense qu'il y a plein de gens qui découvriraient quand même l'huître parce que c'est quand même...
Donc, on les fait cuire comme un coquillage dans une gamelle, un grand
pendant,
fétout d'eau.
Vraiment très peu de temps dans leur
dans
eau.
Dans leur coque,
d'accord.
Qu'on a récupéré, donc ça donne un aspect, une texture complètement autre et qui peut être intéressante pour des gens qui ne veulent pas manger l'huître.
Excellent
comme
idée.
Ça, l'aspect, ça donne un aspect complètement différent.
Mmh. Oui, tout à fait, délicieux. On peut mettre aussi un léger petit sabayon dessus et les passer sous
le four. Là, ça correspond peut-être plus au premier plat du repas, mais en tout cas dans les entrées.
Oui, tout à fait délicieux.
Quoi d'autre en entrée? Marie, tu manges quoi, toi, en entrée de repas de fête?
Alors, moi, j'aime bien les petits fours type gougère, parce qu'en général, ça va très, très bien avec justement du pétillant pour commencer. Et voilà, donc...
Que tu fais toi-même?
Oui,
forcément.
Bien sûr.
Gougère nature?
Bah avec du comté, qu'on a râpé soi-même, bien sûr, et tout ça.
Ouais,
et tout
c'est ça. Qu'on a fait,
d'ailleurs, c'est très simple.
Qu'on a fait soi-même le fromage, on est allé traire la vache.
Non, mais il vient d'un producteur qu'on connaît dans le Jura, des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est vrai qu'avec du bon fromage, c'est d'autant plus excellent. Mais c'est voilà, avec un fromage aussi déjà râpé, c'est très bien. C'est très facile, très simple à faire. C'est une pâte à choux avec un peu de fromage et hop, le tour est joué.
Puis en plus, on mange que de l'air, donc on n'a pas l'impression de se gaver.
Non.
Mauvaise langue, Alice.
Non, mais j'aime beaucoup les gougères, mais je trouve ça très bien parce qu'on n'a pas l'impression de voilà.
C'est
de,
vrai,
de,
c'est, de, pas, de c'est gaver, pas lourd.
De, ouais, voilà, c'est ce pas lourd.
C'est pour ça, moi, que je ne mange pas de gougères, c'est parce que ce n'est pas assez lourd.
Tu manges quoi, toi?
Alors, mais tu peux les accompagner, ça va avec plein de choses.
Tu peux les tremper dans la sauce, si tu veux.
Il faudrait que je mette un truc dedans. Mais du foie gras, par exemple.
Tu peux faire des choux que tu fourres ensuite avec une crème, si tu veux, beaucoup plus grasse et épaisse.
Élaborée, dirons-nous.
Voilà.
Foie gras ?
Ah oui, foie gras. Alors, ouais. Vraiment, vraiment, le foie gras, c'est quelque chose que j'ai découvert sur le tard, parce que je ne suis pas du tout tradition, machin et tout. Enfin, moi, il n'y avait pas ça chez moi, et puis, ce n'est pas ma religion. Donc, mais le foie gras, je l'ai découvert tard au restaurant. Et ce n'est même pas quelqu'un qui me l'a fait, mais au restaurant, en tout cas, c'était fait maison. Et vraiment, avec du sel vanillé. Et voilà, c'est tout, quoi. Et alors là, c'était vraiment une révélation.
Et alors,
tout simplement.
Quoi. C'était frais, poêlé, c'était en terrine?
Non, c'était frais.
Frais.
Ouais.
Avec, servi avec des toasts, confiture, même pas, ouais, pas non, d'accompagnement, non, vraiment nature.
Ouais, ouais, nature comme ça. Ouais, ouais. Et puis après, j'ai goûté quelques confits d'oignons et autres, quoi. Mais je trouve que, enfin, quand c'est un bon foie gras, voilà. Bon, on ne devrait pas dire ça en ce moment avec toute la polémique.
Justement.
Avec une belle tartine chez Sarah, là, un pain de campagne.
Oui, un bon pain, un pain bien épais, ouais, plutôt voilà. Qu'une tranche de pain de mie industrielle.
C'est pénible, oui.
Et on boit quoi en apéro au repas de fête, Marie ?
Ah, du pétnat.
Du pétnat ?
Oui.
Très bien, tu vas
du
nous expliquer tout
ça. Un blanc de chez Pascal. Enfin, moi, je viens déjà de faire. J'ai déjà les bouteilles prêtes à amener à Paris pour Noël. Mais chaque année, c'est. En fait, moi, ça fait. Je vais en parler tout à l'heure, mais ça fait longtemps que. Enfin, depuis très longtemps, depuis que je suis jeune, c'est du pétnat qui remplace le champagne pour les repas de fête.
Et là, c'est bien parce que tu nous as amené Pascal Potter.
Tout à fait.
Qui va nous expliquer tout ça. Je te laisse.
Enchaîner.
Voilà, c'est ça. Ou je sais pas. Enfin, oui. Vas-y.
Aujourd'hui, il m'est apparu évident, étant donné le thème de l'émission, que l'occasion était parfaite pour vous parler de pétnat, ou plus précisément de pétillant naturel, que personnellement, comme je viens de le dire, je bois depuis mon plus jeune âge pendant les repas de fête, plus que le champagne. Plus encore, l'occasion était parfaite pour vous parler des pétillants naturels du domaine des Capriades que j'affectionne particulièrement. Celui de Pascal et Mose, son associé. Comme la vie est bien faite, ça tombe bien, nous avons la chance d'avoir Pascal parmi nous aujourd'hui. Alors Pascal, tu es une référence localement, en France, internationale. Pour commencer, peux-tu nous dire... en matière de pétnat, peux-tu nous dire ce que signifie le terme pétnat ?
Alors, pétnat, c'est justement l'abréviation de pétillant naturel. Ça vient d'assez loin. Ça vient des années 90. Christian Chaussard, qui était vigneron à Rochecorbon, sur l'appellation Vouvray, a remis au goût du jour les pétillants naturels. Je dis remis parce que... Le nom officiel des pétillants naturels, c'est la méthode ancestrale et donc elle est connue depuis des siècles et,
oui.
Et personne n'a inventé le sucre et les levures. Donc, oui. Mais c'est lui, et donc l'expression venait de là, le pétillant naturel de Christian Chaussard est devenu le pétnat de chez Chocho. Donc voilà, il y a plein de gens qui utilisent ça de par le monde maintenant sans savoir que ça venait de là, quoi.
Oui.
Donc, voilà. Donc lui, Christian, je disais remis au goût du jour parce que bon, tout le monde sait comment on fait un pétillant naturel. On met un jus. Alors nous, on va parler, moi je vais parler précisément du raisin, mais ça pourrait être du cidre avec les pommes ou du poiré avec les poires, entre autres. Et donc on met un jus de raisin, on va dire. Un jus de raisin un peu fermenté. On n'est pas vraiment dans le jus de raisin. Il faut quand même un petit peu préciser. Un jus de raisin qui est incomplètement fermenté en bouteille, qu'on ferme hermétiquement. Et ensuite, le jus va continuer à fermenter. Les levures vont manger. mélanger tous les sucres ou partiellement, suivant ce que l'on voudra et ce que l'on pourra maîtriser. Normalement, on doit le savoir dès le départ. Donc voilà.
Et il y a une deuxième fermentation qui se fait dans la bouteille.
Voilà, il y a une continuité de fermentation, parce que la deuxième fermentation correspond vraiment à la méthode traditionnelle. Là, on est absolument sur des levures naturelles, du sucre naturel, aucune adjonction pour faire les bulles, donc ça, c'est très important.
Ouais.
Donc on doit avoir des raisins suffisamment mûrs et équilibrés pour se passer d'une adjonction, notamment de sucre, pour avoir la continuité de fermentation en bouteille. Ensuite, on va laisser ce vin reposer plusieurs mois ou voire plusieurs années, comme nous, on peut le faire.
Oui.
Là, c'est également un choix qui doit être prévu dès le début, à mon avis, si on maîtrise suffisamment le protocole, on va dire.
Et donc, tu peux à la fois garder des sucres, enfin, ça peut être un vin qui est en fin de bouche enfin, ou qui est de nature un tout petit peu sucré dans ses arômes, ou alors pas du tout, sec.
Absolument, oui. Comme je le disais, on doit le savoir dès le début. Il est absolument impossible de faire des pétillants naturels avec zéro gramme de sucre dedans, ou alors un petit peu de sucre, pas mal de sucre. Donc ensuite, c'est une technique à acquérir, mais on doit pouvoir le faire systématiquement tous les ans, oui.
Donc tu nous disais que le pétillant, tu as découvert en fait ton premier pétillant, c'était celui de Chochot ?
Oui, bien sûr, oui, que Christian, oui, que dont j'ai fait la connaissance en 95, donc voilà, lui s'essayait depuis déjà quelques années, dans le début 90,
oui,
à justement des pétillants naturels, et donc c'est grâce à lui que j'ai découvert ce style de vin. Donc, il est certain qu'on était au début. Il y avait, beaucoup de discussions par rapport à ça. Dégorgement ou non, cépage, mais effectivement, c'est...
Dégorgement, c'est quand on enlève...
Voilà, quand on expulse le dépôt...
qui est dans la bouteille.
Voilà, on a mis la bouteille sur l'atte, hein, sur les lits, et on doit, à mon avis, on doit dégorger ensuite cette bouteille, parce que les lits, on en a besoin pour l'élaboration du vin, mais pas pour la dégustation. Donc effectivement, la pression contenue dans la bouteille permet d'expulser le dépôt, soit manuellement ou mécaniquement. Et ensuite, en pétillant naturel, on va refaire un petit peu le niveau, parce que l'expulsion fait perdre un tout petit peu de vin, mais... En pétillant naturel, méthode ancestrale, on est autorisé à ne remettre que le vin correspondant.
Et donc, le fait d'enlever des lits aussi, tu obtiens après des bulles plus fines.
On obtient des bulles plus fines et on obtient une dégustation bien plus intéressante. C'est-à-dire qu'elle n'est pas parasitée par des lits qui vont se trouver en suspension avec le gaz après ouverture de la bouteille. Donc oui, à mon avis, oui, on affine, quoi.
On affine.
C'est une petite anecdote là-dessus. Une fois, un de mes collègues vignerons m'a demandé pourquoi je dégorgeais mes pétillants, et je lui ai répondu que quand j'allais goûter chez lui en barrique, je ne l'avais jamais vu aller chercher dans les lits avec la pipette. Je n'ai jamais vu un vigneron aller chercher dans les lits avec la pipette avant, ou bâtonner sa barrique avant de faire goûter. Donc je pense qu'on résume assez bien le protocole du dégorgement par rapport à ça. En tout cas, pour moi, c'est une évidence.
Ouais.
Mais c'est également un travail très, très important, de manipulation.
Et quand as-tu commencé à faire du pétnat ?
Alors, personnellement, en 2003. Et sinon, je peux remonter à des souvenirs en 98, donc à Vouvray. Mais là, j'étais pas seul à l'époque. Mais les premiers souvenirs de pétillant remontent à 98. Et ensuite, pour moi, depuis 2003.
Depuis 2003. Alors, tes pétillants, ce sont des pétillants blancs, rosés, rouges. C'est bien,
voilà,
ça.
On a différentes couleurs.
Différentes couleurs.
Effectivement, les trois couleurs. Hein, la dernière, on a parlé du rouge. Ça s'appelle la bulle rouge. Il y a des gamay teinturiers dedans, donc ça donne beaucoup de couleurs, même si c'est pressuré directement. Et ensuite, on a des rosés faits avec différents cépages, que des cépages rouges, parce qu'on a, nous, la particularité en bulle de pouvoir faire du rosé en associant des cépages blancs et rouges. Mais là, en l'occurrence, ce sont uniquement des cépages rouges pour le rosé.
Oui.
Et ensuite, des cuvées de blanc, effectivement. Donc en rosé, il y a une cuvée... Oui, il y a une cuvée qui s'appelle Piège à filles, qui est faite en blanc.
De renommée internationale.
Oui, ça colle un peu à la peau, mais c'est effectivement...
Et ça marche. Ah là, je suis désolée, parce que j'ai fait l'intro avec ça.
Et disons que voilà, Piège à filles, c'est un côté un peu gourmand, comme ce qu'on a pu tester tout à l'heure. Je ne sais pas si j'ai eu le droit de le dire.
Si, si.
Si d'ailleurs, ça manque.
On s'est mis, c'était bon. Voilà.
Alors justement...
On ne parle que de ce qu'on approuve. Hein.
Ouais. Les verres sont vides en attendant.
Ouais, en attendant, c'est vide. À part Marie.
Sur les cépages, tu peux juste nous dire pour les cépages que tu utilises pour...
Oui, voilà. Oui. Alors nous, pour les blancs, on utilise du menu Pinot. Qui s'appelle l'Orbois également maintenant, officiellement l'Orbois, le Chenin, le Chardonnay, c'est principalement les cépages blancs que l'on utilise, qui sont des très beaux cépages pour les bulles. En ce qui concerne le rosé, c'est un peu plus étendu parce que beaucoup de cépages permettent de faire d'excellents rosés.
Oui.
Donc on a les gamets, j'ai parlé des teinturiers, gamets noirs à jus blanc, le gros lot, pinot noir, cabernet franc, on peut faire. Et suivant les années, c'est ce qui peut entrer dans nos cuvées de rosé.
Voilà.
Le rouge est fait avec des gamets teinturiers, des fois du co.
Qu'est-ce que tu nous recommanderais justement, comme quelle cuvée recommanderais-tu pour les repas de fête? Pas forcément de fin d'année, mais des
Alors,
fêtes.
Alors, les repas de fête, je parlais tout à l'heure de cuvées que l'on laisse vieillir. On a une cuvée qui s'appelle Pépin la Bulle.
Mmh.
On commence à dégorger dès 2014 pour montrer également que les vins peuvent se garder et évoluer. Donc je pense que ce serait le genre de cuvée à proposer pour montrer un vin posé. C'est plutôt de type sec. Et puis pour également montrer que les pétillants naturels peuvent exprimer un terroir. Donc là, on aurait un assez joli vin d'apéritif, je pense, ou d'entrée. On parlait d'entrée, ça pourrait...
Avec quel type d'arôme
Alors, on est déjà sur des arômes beaucoup plus évolués. On a des côtés un peu crayeux. On a encore des notes... on peut avoir des notes de fruits, mais on est vraiment déjà vers des vins évolués. Cette cuvée-là est généralement avec du chenin et du menu pinot. Donc, on commence à retrouver les arômes assez... on va dire minéraux qu'on
oui.
commence à avoir avec des chenins qui ont un peu d'âge. Mais suivant les années, on a encore du fruit. Il y a suffisamment de maturité pour pouvoir prendre ça en apéritif ou alors manger.
Par exemple, avec nos différents petites entrées dont on parlait tout à l'heure,
je pense que
ça irait très bien.
Les huîtres fraîches, peut-être moins,
ah,
mais
oui.
pochées, oui. Les gougères, je pense, pas de
Parfait.
Problème. Le saumon, il faudrait faire des essais, ou boudin blanc, je pense, quelque
ouais,
chose d'assez
oui,
léger.
Les boudins,
Allez, ensuite, sur des choses un peu plus soutenues, ça serait peut-être un peu difficile. Hein, c'est un blanc de blanc, donc, mais ce genre d'entrée, oui, je pense, irait parfaitement avec.
Et alors, justement, pour que l'ambiance soit parfaite, quelle musique aimerais-tu écouter, écouterais-tu dans ce contexte
C'est comme on parlait de fêtes, d'agapes et autres. Pièce montée des grands jours de Thomas Fersen.
Wow.
C'est assez,
ah oui.
assez intéressant et puis c'est rigolo. Et j'aime beaucoup cette chanson.
Une belle introduction à la fête.
En duo avec Marie Trintignant.
En plus.
C'est une nuit conventionnelle, un chien aboie, une chouette ulule, les prisonniers dans leurs cellules rêvent de creuser un tunnel.
Mais avec une petite cuillère, il faudrait être un peu naïf, la prison n'est pas un gruyère, si au moins j'avais un canif.
Je vous fais porter une brioche, fourrée avec une pioche, 10 mètres de corde environ, dans la dinde au marron. Si vous goûtez la mortadelle, n'avalez pas la pelle. Ce n'est pas tout cas, j'ajoute, une lime dans le pâté en croûte, et dans le petit pot de beurre, une pince, monseigneur.
Dans la purée, pas de grumeaux,
seulement le chalumeau.
10 mètres de corde environ,
dans la dinde au marron.
Un vilebrequin dans le ragoût,
ça lui donnera du goût.
Et le poil dans la choucroute, moi franchement ça me dégoûte.
Filez avant que le jour se lève, si vous trouvez la fête. qu'une nuit conventionnelle.
Alors très bien, on a notre entrée, on a nos bulles pour bien démarrer la fête. Et alors après, on mange quoi, camarades attablés?
Surimi mayonnaise.
Surimi mayonnaise, très bien. Bah oui, mais la mayonnaise est faite maison, oui. Après tout. Donc viande, sommets, poisson, hein. Rôti, poularde.
Oui, une poularde au marron, poularde. Très classique.
Alors moi, je ne connaissais pas poularde, je connaissais dinde, poulet, poularde, c'est... D'accord, non, une poularde,
moi, je suis plutôt,
volaille,
ouais,
quoi.
Ouais, moi je trouve ça sympa, la poularde, oui. La dinde, j'ai des super mauvais souvenirs, moi c'est hyper sec, t'arrives pas à l'avaler, tout ça, franchement c'est filandreux, généralement c'est super mal cuit, les gens savent pas faire les volailles à la maison, c'est vrai. Hein.
Ah, tu ne commences pas ton coup de gueule tout de suite, c'est pas encore.
Non, mon coup de gueule est sur autre chose, mais c'est vrai, la farce, elle est généralement mal faite, les gens ils mettent que des marrons dedans, alors qu'il faut mettre une chair à saucisse au minimum. Le mieux, c'est une poitrine fumée quand même avec des échalotes et puis faire cuire les marrons qui sont des châtaignes, hein, finalement, c'est pas des marrons bien évidemment, heureusement, les faire cuire à la vapeur pour leur donner un petit peu de consistance un peu humide pour pallier un petit peu, parce que c'est sec, hein, la dinde.
Mais c'est forcément farci du coup, une dinde?
Non, pas forcément, mais à Noël, pour le coup, c'est farci au marron. Enfin, c'est la plus grande tradition franco-française. Je crois qu'en Suisse, ils mangent la même chose.
Mais sommes-nous obligés... Pardon, Marie, tu voulais intervenir sur la poularde fourrée au marron.
La poularde, c'est mieux, hein, parce que c'est plus juteux, je trouve. Moi, c'est une meilleure idée, je trouve.
D'accord, ouais. C'est plus gras.
Et puis après, toi, tu avais d'autres plats de fête
Oui, parce est-on obligé de manger une dinde au marron à Noël?
Non, pas du tout. Moi, j'en bois jamais. J'aime pas ça. Non, mais
une poularde à la place de la dinde.
Oui, si on est sur les repas de fête, les repas de fête, moi, je ne sais pas, vous allez me dire, parce que vous êtes plus spécialiste que moi, mais j'ai l'impression que c'est toujours très compliqué. C'est très long à préparer, c'est très compliqué.
Ah, c'est plus long qu'un surimi mayonnaise.
Voilà. Alors que moi, au Noël dernier, on avait mangé des lasagnes au Cantal et aux épinards. Et ben, c'était vachement bon.
Ah ben ouais, mais je vote pour après. Mais ça sort moins de l'ordinaire.
Justement,
tout le monde a aimé.
C'est la cuisine, justement, que ce soit pour les fêtes ou pour toute autre occasion. Ouais. Ça peut être simple et excellent et tout à fait approprié. Donc même pour les repas de fête. On cuisine simple, avec des super produits.
C'est une meilleure idée de cuisiner simple, parce que sinon, il y en a un qui passe sa journée dans la cuisine.
Bah, c'est ça.
Et il passe un Noël vraiment pourri.
Bah, voilà.
C'est le premier
cuisin. Ça cuit trop, parce que les invités sont arrivés en retard, tout ça. Donc,
ouais, puis il passe son temps à faire la tambouille.
Les grosses pièces, on a aussi le souvenir des plus petits, des grandes tablées et autres, réunion de famille. Oui. Donc, effectivement, ça ramène aussi à ce genre de souvenirs.
Mmh. Et Pascal, toi, repas de fête, c'est dinde, c'est la volaille
Oui, ça dépend. Hein, ça dépend de l'assistance, effectivement. Ça peut être tout à fait simple. Les poissons, les poissons fumés, là, on parlait de... Non, je ne sais pas, Marie, tu avais parlé de la fumée. Les fumaisons, je crois, on a évoqué ça tout à l'heure. Donc, ça peut être effectivement suivant l'humeur, quoi. Après, quand on est obligé d'aller manger une dinde au marron, des fois, il faut se plier.
C'est moins plaisant. Ouais. Mais c'est vrai, tu as raison. Je pense que c'est très important. Il faut faire... c'est un moment de partage et de plaisir. Donc, il faut faire attention à l'assistance. Voilà, s'il y a plus d'enfants, on ne va peut-être pas forcément non plus exagérer sur la boostifaille.
Et toi, Yann, ton Noël norvégien, du coup, puisque bon, Yann, on va juste rappeler que tu as vécu en Norvège de nombreuses années. Mm-hmm. C'est quoi le repas traditionnel, là?
Le repas traditionnel en Norvège, c'est du porc. On mange du porc, on mange une grande poitrine de porc. On va quadriller la couenne du dessus, faire des carreaux de 2 cm à peu près de côté. Toute la couenne est quadrillée sur le dessus. On va mettre du sel et du poivre, on va masser notre poitrine. On parle d'une poitrine qui fait à peu près 30 cm sur 20-25. Hein. Donc il y a encore les plats de côte en dessous, on quadrille tout ça comme je le disais, on met du sel, du poivre, on réserve une nuit au frigo et le lendemain on prend un plat dans lequel on met une assiette retournée, on met notre poitrine du côté couenne quadrillée dessus l'assiette, on met un petit fond d'eau et on met ça au four pendant à peu près une heure et demie à peu près à 200 degrés, ça dépend de notre four. Après une heure et demie on retourne la viande. Et on ne l'arrose pas avec l'eau qui va rester un petit peu au fond du plat. On va finir la cuisson comme ça. Alors maintenant, là, le gras et la coigne du dessus ont bien été imbibés de l'humidité et de la vapeur pendant une heure et demie. Elle va rester juteuse et petit à petit, elle va se craqueler au-dessus, de faire comme un gros graillon, un gros croquant. Et ça se mange. Donc, on sort du four, on laisse reposer pendant au moins 30 minutes avant de le couper pour le manger. Et ça se mange avec ce qu'on appelle des milisteckakel. Ce sont des quenelles de porc un petit peu épicées avec du gingembre. Qu'on fait rôtir à la poêle. Et les légumes en Norvège, il n'y en a pas tellement, pas tant que ça. Donc on mange des pommes de terre, parce que c'est à peu près tout ce qui pousse depuis 200 ans là-bas. Je ne sais pas ce qu'ils bouffaient avant, parce qu'ils mangent des racines, la rutabaga, tout ça.
Des herbes.
Et puis ils mangent du chou fermenté, comme une choucroute, mais qui est un peu plus sucré, et avec du cumin. Ça peut être du chou rouge ou du chou blanc. Voilà, avec une sauce brune, tout simplement. Avec. Délicieux, hein, tout à fait. Par contre, le vin se prenne pas tellement avec ça. Il y a certains blancs, petit Riesling peut-être, un truc un peu plus, des vins plus acides. Ouais, mais pour faire couper un petit peu le gras du porc, une bière et puis une aquavit après pour faire passer tout.
Et puis voilà. Enfin, je note que c'est quand même des plats très très carnés tout ça. Yann, puisque tu as la parole,
c'est moi.
Si tu poussais ton coup de gueule.
Ah bah, écoutez, comme vous voulez.
Est-ce que vous trouvez que c'est pas complètement con que quand vous interrogez un mot mais que vous lui dites le chocolat vient d'où, il vous répond ça vient d'une tablette. C'est consternant, moi, quand j'entends ça. Allez dans des écoles, au lieu de faire de la télé comme ça en chambre, mais en petit studio comme ça. Allez voyager, baladez-vous. Vous allez voir la situation des mots, mais consternante. Ils ne savent plus rien, on n'apprend plus rien à l'école. Moi, quand j'entends un môme qui me dit ça vient d'une tablette, le chocolat, je vous jure, j'ai envie de chialer.
Il avait tout à fait raison, Monsieur Coffre. À vrai dire, très chers tous, je n'avais pas vraiment à cœur d'être d'avis trop négatif juste avant cette période de fête. Ça n'aurait pas été très convenable d'en rajouter une couche. Ben oui, mais d'autant plus que j'ai que des gilets oranges dans la voiture familiale. Donc, de nos jours, on fait plus crédible pour des contestataires. Alors, je ne vous cache pas non plus que les rituels de fin d'année sont une source d'inspiration sans fond pour les trublions de mon genre. Les trublions, je l'ai bien dit. De mon genre, pardon. Mais il paraît que les gens y sont tellement attachés à leur tradition de Noël qu'ils ne supporteraient pas de critiques incongrues à leur égard. Et comme je dois avouer que j'aime Noël, il fallait donc que je me ressaisisse fissa et trouve de quoi râler une dernière fois avant l'année prochaine. Donc oui. Je passe donc en revue tous les éléments qui font que nous allons tous plus ou moins réunir dans nos maisons pour recréer, comme tous les ans, une vraie ambiance festive et chaleureuse. Je parle bien sûr des bougies aux fenêtres, des étoiles aux mêmes fenêtres, des calendriers de l'Avent, un parent-enfant bien sûr à ouvrir chaque matin sous peine de crise majeure en cas d'oubli. La fausse neige sur les carreaux pour faire encore plus ambiance. Décidément, elle morfle vachement à Noël, les fenêtres, vous avez remarqué. Bref, les chaussettes et les guirlandes sûres et au-dessus des cheminées, les branches de gui suspendues au-dessus de la porte, le hou sur la table, peut-être que c'est le contraire, et la drag queen qui clignote au fond du salon. Ah non, par contre, c'est le sapin, pardon. Et donc, il manque un truc essentiel, et puisque nous sommes dans une émission où on parle de bouffe, ça tombe plutôt bien, j'ai donc nommé le chocolat. Et enfin, les boîtes de crottes au chocolat. Celles achetées au supermarché, bien sûr. C'est là que les industriels s'éclatent et nos foies aussi par la même occasion. C'est de là que vient une petite colère de ma part en cette fin d'année. Prenons une friandise très prisée en cette période. Vous savez, un petit rocher de chocolat emballé dans un papier semi-alu couleur d'or. Celui avait une petite gaufrette à l'intérieur et des éclats de noisettes sur sa couverture et dont le nom fait penser à une voiture de sport, sauf que ce n'est pas la même voyelle. Mais si, les bobos, même sur Arte, il y a des pubs. Eh bien, avant d'en acheter les plus grosses boîtes pour que toute la famille puisse s'en empiffrer, je vous conseille vivement, on ne le dira jamais assez, de bien regarder les prix au kilo, s'il vous plaît. Les prix au kilo sont toujours indiqués dans les rayons, juste au-dessous du prix, et quand on y fait bien attention, on peut réussir à faire des grosses économies. En effet, une boîte de 375 grammes de ce chocolat vous coûtera toujours moins cher qu'une boîte de 750 grammes au kilo. Regarde bien, il y a toujours au moins, au minimum, 1 euro de différence. Là où on croyait faire une affaire en doublant la dose, au final, on se fait bien avoir. Et plus c'est gros, et ben plus ça passe. Bientôt, je ne serai plus étonné de voir des promos du genre « achetez-en 2 pour le prix de 3 » et comptez ceux qui tomberont dans le panneau. Les supermarchés le savent bien, les gens ne lisent plus. Et de s'aventurer dans les rayons les plus sucrés des supermarchés, le constat est malheureusement toujours le même. Plus la boîte est grosse, plus c'est cher au kilo. Les peuples d'Amérique centrale l'avaient bien compris. Les fèves et les graines de cacao leur servaient déjà de monnaie il y a plus de 3000 ans. En gros, plus tu souffres, plus tu as besoin de réconfort et plus tu payes cher ce qui t'en apporte. C'est d'une logique économique implacable si on n'a pas trop de scrupules. Alors, on ne va pas se mettre à manifester notre mécontentement aux devantures des magasins alimentaires. Les options existent, comme celle d'acheter deux boîtes de 16 petits rochers à 18,95 le kilo, au lieu d'en acheter 24 à 27,67 le kilo pour 300 grammes. Ça fait quand même une sacrée différence. Ou alors encore plus simple, pas manger de chocolat du tout et continuer à râler sur d'autres sujets dont je vous ferai part l'année prochaine. Joyeux Noël à tous.
Moralité, je me suis bourré de pistaches comme un con.
Really can't stay.
But baby, it's cold outside.
I've got to go away.
But baby, it's cold outside.
This evening has
been hoping that you
so
drop in.
So very nice.
I'll hold your hands, they're just like
my
ice.
My mother will start to worry.
Beautiful, what's your hurry?
And father will be pacing the floor.
Listen to the fireplace roar.
So really, I'd better scurry.
Beautiful, please. Don't
well,
hurry.
Maybe just a half a drink
put
more.
Put some records on while I pour.
The neighbors might think.
But baby, it's bad out there.
Say, what's in this drink?
No cabs to be had out there.
I wish I knew how.
Your eyes are like starlight
to
now.
Break the spell.
I'll take your hat. Your hair looks swell.
I ought to say no, no,
mind
no,
if
sir.
I move in.
At least I'm gonna say that I tried.
That's the sense of hurting my pride.
I really can't stay.
Oh, baby, don't hold out, baby.
Ah, but it's cold outside.
Comme il fait un petit peu frais dehors, nous sommes réunis dans ce studio. C'était Ella Fitzgerald et Louis Armstrong, Baby, it's cold outside. On a vu les entrées, on a vu les plats de résistance, enfin, rapidement, et en dessert. Alors, on mange quoi ? Des Ferrero ? À combien le kilo, Yann ?
Trop cher.
Bûche, moi personnellement, la bûche, j'ai jamais compris l'engouement pour. Voilà. Et vous, vous mangez quoi en dessert au fait ?
Une bûche. Non, pas de bûche, non, c'est trop écœurant, la crème au beurre.
Alors, il n'y a pas dépend. Que des bûches à la crème
non,
au beurre.
Il y a certaines bûches glacées qui sont. Ouais, quand elles sont bien faites, c'est agréable, mais ça dépend des parfums. En fait,
chez les potaires, on mange quoi en dessert au repas de fête ?
Ça dépend de ce qu'on a pu manger avant et en quelle quantité. Oui. Les fruits, sinon, moi j'ai souvenir de fruits. Alors, à la fois les fruits frais et puis les fruits déguisés.
Mais
ça, c'était les petites gourmandises.
Qu'est-ce que c'est, les fruits déguisés ?
Alors, ce sont des fruits secs dans lesquels on met de la pâte d'amande.
De la pâte d'amande.
Donc, des dattes.
Des noix, des pruneaux.
Des mendiants et autres. Donc, moi, j'ai un grand souvenir de ça. Je suis un grand fanat de dattes. Donc,
Moi aussi, tous les ans.
Des fruits frais aussi. Alors, effectivement, après la bûche, des fois, ce n'est pas facile à arriver.
Marron glacé, hein, les marrons glacés.
C'est très bon.
Le marron glacé d'Italie. Vachement cher. Ça coûte 3-4 euros le marron. Il faut vraiment être très intransigeant là-dessus.
Il est gros le marron ?
Ouais, il est quand même pas mal. Il est gros. C'est une balle de golf. Peu plus petit qu'une balle de golf.
En tout cas, les marrons glacés, comme pour les rochers dont tu parlais tout à l'heure, je pense que plutôt que de parler et de penser à ceux de supermarché, il y a encore plein d'artisans super partout en France. Des chocolatiers, des pâtissiers qui font des super rochers, des super marrons glacés, des super petits fours pour le dessert, tout ce qu'on veut. Et donc, qui sont parfois, par exemple, à Montrichard, il y a un très bon chocolatier, un petit chocolatier qui est tout à fait correct. À Blois, il y en a plein. Enfin, et donc, ça reste excellent et à des prix qui peuvent être en tout genre, mais abordables.
Mais bon, les crottes en chocolat en dessert, c'est un peu... non,
bah, c'est petit rocher. Les truffes,
rocher après la dinde et puis...
Les truffes, on peut les faire maison assez
facilement.
Oui,
tout à fait. Et moi, j'aime bien les petits gâteaux... Je ne sais pas si vous faites ça, les petits gâteaux alsaciens, les petits gâteaux allemands. Alors, je ne sais pas si c'est une tradition scandinave aussi, Yann.
Non,
danois, en Danemark.
C'est très allemand, ça, les petits gâteaux sablés qu'on fait les cannelles dans lesquelles on met de la cannelle. Ou des petits gâteaux individuels, les petits croissants aux amandes.
Moi, j'en fais de temps en temps.
Ouais, je trouve ça... Alors bon, c'est des pâtes sablées, on n'oublie pas le beurre là-dedans, mais je trouve que ça change un peu si, du gâteau.
On peut faire sans beurre, avec de la purée d'amande, avec de la purée d'amande, la poudre d'amande, etc. On peut faire sans beurre.
Et le gras, c'est la vie, hein,
je rappelle. Ah oui, c'est vrai, on l'avait un peu.
C'est vrai que là, c'est une émission médicale maintenant, voilà. Parce que sans beurre, c'est pas possible.
L'amande, il y a quand même un peu de gras aussi, hein, c'est un peu de gras.
C'est très très gras, c'est extrêmement gras.
Et autre pâtisserie, non, vraiment. Enfin, moi, je suis surprise. Je pensais que vous alliez sortir de votre chapeau autre chose. En fait,
une fois qu'on a mangé tout ça, je crois que moi, je mange rarement un dessert à Noël, personnellement. Mm-hmm. Voilà. Parce que t'as tellement bouffé.
Alors, moi, je suis très, très gourmande. Donc, je peux manger beaucoup et beaucoup de choses à la fois. Mais c'est vrai que terminer par un truc sucré, voilà, on le dit souvent, mais moi, j'aime bien.
Moi aussi. La
petite note sucrée. Franchement, agréable.
Avec du marron dedans, éventuellement, du chocolat.
Puis le chocolat.
Le chocolat.
Moi, je trouve que le chocolat, c'est incontournable, quoi. C'est un truc.
C'est la vie.
C'est la vie, c'est comme le gras, quoi.
Plutôt d'accord. Ouais. Plutôt d'accord. Le chocolat. Ouais. Ouais.
Donc,
ouais.
Alors, moi, je voterais du coup pour une assiette de mignardise avec des foufruits. Des fruits. Non, comment vous
des
avez
fruits déguisés.
Des fruits déguisés.
Oh, c'est mignon, des foufruits.
Des fruits déguisés. Des petits cannelbredle alsaciens, allemands, de l'Est, quoi. Mmh. Et puis quelques crottes en chocolat achetées chez l'artisan du coin.
Oui. Oui, avec quelques fruits, clémentine.
Une bonne glace aussi.
Une clémentine,
glace au chocolat, c'est bon aussi. Hein.
Glace au chocolat. Ah ouais.
Chocolat marron.
Super, parce que bonne glace au chocolat.
Moi, je me souviens d'un dessert de Noël que j'ai mangé une fois. C'était une espèce de fondant glacé, marron, chocolat, une tuerie.
Bah ouais.
Et alors, vous êtes partisan de l'accompagnement vinifié avec le dessert ou pas?
Ah, dessert, c'est l'eau. Ah non, mais de l'eau, jamais. Pour les fêtes, c'est complètement...
Non, je parlais du dessert. Hein,
on est bien d'accord. Mais l'eau, de toute façon, à table, à Noël, je trouve ça malheureux d'avoir de l'eau, personnellement.
C'est-à-dire que quand on arrive au dessert, on ne sait plus très bien ce qu'il y a dans les
mais
verres.
Mais c'est ça. Moi, je trouve ça dommage. En fait, je trouve ça dommage de revoir quelque chose. Parce que justement, on a commencé avec le pétnat. Pascal, est-ce que tu remets du pétnat avec le dessert?
Oui, pourquoi pas. Ou alors, on fait on attend, on mange son dessert, on fait un petit break et après, on boit.
Ah, dans ce cas-là, voilà. Quand on a...
Mais bon, on a des cuvées avec un tout petit peu de sucre légèrement arrondir, mais qui ont gardé de l'acidité, donc qui vont quand même bien aciduler la boisson, qui vont faire un bel équilibre. Donc je pense qu'il n'y a aucun souci, oui.
Qui vont pas trop, parce que le sucre plus sucre, ça peut être trop. Donc
non, mais là, je parle vraiment de sucre et acidité, donc on le sent à peine. On ne peut pas deviner.
C'est gourmand, juste pour que ce soit un peu gourmand.
Oui. On est simplement les mariages un peu bizarres. Chocolat-champagne, par exemple, ne marche pas du tout. Hein.
C'est-à-dire un morceau de chocolat, une bouchée de chocolat avec...
Un dessert, peu importe, chocolat, pour autant qu'il soit un petit peu fort et expressif, le champagne avec, c'est une catastrophe.
Champagne champagne.
Mais même un pétillant naturel, je pense que Pascal serait peut-être d'accord avec moi. Qu'il soit un petit peu trop rond et un petit peu trop... avec le chocolat, ça marche
pas. Il faut faire ses essais, bien sûr. Hein. Ouais. Il y a les fameux grands mariages qui sont toujours à discuter. Hein.
Merci. Pour ces repas de fête, je ne sais pas, chers amis auditeurs, si vous avez réussi à constituer votre repas.
À mon avis, non.
Ils ont tous fait faire des lasagnes aux épinards.
Dans l'ordre, huîtres pochées, un plat norvégien, poitrine de porc.
Ouais, parce que franchement, c'est le four qui fait tout. La sauce brune, vous faites un roux, balancez un bon fond de veau brun dessus, paf, c'est fait. Il n'y a plus qu'à vérifier l'assaisonnement. Ça cuit tout seul, ça sort du four, vous laissez reposer, vous quadrillez, enfin vous coupez, terminé.
Et puis une mandarine en dessert, quoi.
Mais pourquoi pas.
Le tout avec du pétnat des capriades.
Oui. Et où est-ce qu'on peut acheter tes vins dans la région, Pascal?
Alors, on peut en acheter chez Ghislaine à la Planète Verte à Montrichard. Dans quelques endroits, plutôt resto, bistrot. Oui. Je parlais de l'Archimède, l'Herbe Rouge. Et vraiment, le plus près, c'est la Planète Verte à Montrichard. Ou sinon, sur place. Mais il faut il faut nous contacter avant.
Voilà. Et à Blois,
à Blois, ouais. Quelques endroits, ouais, oui, bien sûr, oui.
Si on terminait sur des souvenirs d'enfance,
oui,
Véro,
les 400 coups.
Les 400 coups, forcément.
Ah, ouais. Oui, j'ai été voir Thomas Grappi, que certains d'entre vous connaissent. Il tient le Petit Jardin à Blois.
Voilà, qui est une épicerie.
Qui est une épicerie et il est vendeur de légumes et de fruits très très bons. Voilà, il dit des choses très intéressantes. On parlait des huîtres, et ben, on va l'écouter. Se souvenir des bonnes choses.
Alors c'était une journée particulière en Charente-Maritime où vivaient mes grands-parents et où mon oncle et mon cousin étaient ostréiculteurs, donc cultivaient les huîtres. Et nous partions en vacances, on venait d'arriver et on croise mon cousin dans la rue et il nous dit « je vais à la marée, donc pêcher des huîtres ». C'est pas une grande marée, puisque selon la durée des marées, c'est plus ou moins grand, donc plus ou moins pénible. Est-ce que vous voulez venir ? On court se préparer, on monte dans l'antique 403 camionnette avec des trous partout. Et nous voilà arrivés sur le port, dans le petit bateau en bois, avec un petit moteur. Et on part. Alors ça dure pas très longtemps, hein, un quart d'heure, 20 minutes, on arrive à la zone de pêche, la mer descend, donc là on est presque à sec. Mon oncle et mon cousin commencent à travailler, donc tout ce travail qu'on connaît pas très bien, mais qui est de collecter les huîtres, de les ramasser, de les mettre dans des sachets, etc. Et nous, on pêche à pied. Voilà, alors on ramasse des bigorneaux, on pêche des crevettes avec des balances, on ramasse des huîtres sauvages ou des moules. Alors, la marée était très courte, donc on remonte. Alors là, la mer remonte. Alors, on se met en travers avec le bateau du courant. Et là, il y a des pêcheries qui sont des pieux de bois ou des alignements de pierre pour pêcher des poissons. En mettant un filet là-bas qui s'appelle un filet traditionnel de triangulaire qui s'appelle l'avenot. Alors, il suffit de le mettre puisque ça fait une nasse. Et puis, on ramasse quelques poissons. Alors là, on avait le poisson, on a la pêche qu'on a ramassée, les bigorneaux, etc. Et là, on se dirige vers le port et vers l'éclair, puisqu'on est en Charente-Maritime et les huîtres sont mises à affiner, entre guillemets, dans des clairs, où là, elles acquièrent cette petite, ce qu'on appelle la navicule bleue, et ce qui donne cette couleur de l'huître marine-oléron particulière. Alors, ils mettent les huîtres qu'ils ont pêchées dans la claire, on en prend des plus anciennes, et donc là, la marée montant, on se dirige vers la bonde de la... Alors, une claire, hein, c'est comme un petit étang, hein. Donc il y a un système de canaux qui amène l'eau de la mer dans la claire, et on pêche dans la bonde des crevettes. Et là, il y a plein de crevettes, il y a des montagnes de crevettes. Alors, on a des huîtres, beaucoup de crevettes, des fruits de mer. On rentre à la maison de mon oncle. Et là, c'est une zone qui était une zone qui s'appelle Port des Barques, à côté de l'île Madame de Rochefort-sur-Mer. Et c'est une zone qui est assez, assez marrante. C'est des petits villages de pêcheurs, c'est des villages très pauvres. Des toutes petites maisons en chaux. Et puis souvent, on voit, il y a une partition. Il y a la petite maison. Il y a un chemin, il y a une cabane de l'autre côté de la rue. Dans la cabane, on s'occupe des huîtres, il y a le fond du jardin, il y a un petit bout de jardin avec généralement les toilettes au fond, l'endroit pour cuire le poisson, quelques pieds de salade, des fines herbes. Dans le chai, on a aussi parfois de quoi faire le vin. Alors là, on va dans ce jardin, dans cette vigne qu'avait mon grand-père. Et on ramasse des pommes de terre nouvelles, une laitue, de la fine herbe. Et puis nous voilà partis à faire griller le poisson. Ma grand-mère avait pris les crevettes, les avait mixées avec du beurre. Et on a mangé des huîtres, des bigorneaux, des moules, du beurre de crevettes, des toasts. Notre poisson, notre meuil et notre bar grillé. Nos pommes de terre cuites avec la salade. Et ça... J'avais 9 ans, donc ça fait, je ne dis pas combien de temps, quelques dizaines d'années. Et c'est un souvenir qui me reste vraiment gravé en mémoire, parce que tout ça, je l'avais déjà un peu connu, mais c'était des épisodes un peu séparés. C'est-à-dire que voilà, je mangeais des huîtres, je mangeais très local. Il y a une identité culinaire forte, la chaudrée, la matelote de poisson, l'éclate de moule, les moules qui sont cuites avec les aiguilles de pin sur une planche de bois. Voilà, c'est tout ça, c'est une gastronomie populaire, vraiment, puisque moi, c'est une famille de gens pas très riches. Et ce jour-là, c'était une journée quasi parfaite. Et je pense que entre ma grand-mère du Limousin, où j'avais connu des émotions à peu près similaires, et moi qui ne suis ni chasseur ni pêcheur et qui me dirige tranquillement vers un régime végétarien, eh bien, là, je crois que j'ai compris ce que c'était que de vivre sur un territoire et une économie domestique voilà, quasiment parfaite, qui ne demandait pas beaucoup d'argent. Voilà. Et maintenant, ça... ça n'existe plus.
Et Thomas, donc, qui regrette peut-être le temps d'avant, le temps de l'enfance, hein, on ne sait pas. En tout cas, j'étais obligée de l'interrompre, mais c'était passionnant ce qu'il disait, pas seulement sur son enfance, mais sur, sur la le rapport,
oui,
en fait.
Le rapport au territoire.
Au territoire, tout exactement. À fait. Ouais, ouais. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant. Peut-être que je retournerai... interroger.
Pour un autre souvenir, ouais, d'enfance. Ouais. Merci Véro pour ce souvenir de, des bonnes choses avec Thomas. Merci à tous, camarades attablés. Merci Yann, merci Marie,
merci
Véro, merci Pascal d'être venu jusqu'à nous de Faverolles, ouais, sur Cher. Merci à notre Joub local à la technique. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël.
Ou de bonnes fêtes pour ceux qui ne souhaitent pas
Noël. Voilà,
ou de bonnes vacances.
Ou de bonnes vacances. Et un petit coup en islandais.
En islandais, on dit Gledrial. Et en norvégien, on dit Gujul.
Ah, moi, j'aime bien. Ouais, Gujul.
C'est plutôt
bien,
rigolo.
Hein, c'est bien, sympa.
Gujul.
Gujul à tous.
Gujul à tous.
À tous. À tous. Gujul à tous. Et on se retrouve au mois de janvier. Ciao, bye et bonne fête à tous.
Salut.
Salut.
Bye.
Au revoir.
C'est pas comparable à rien, mais je vous assure. Et me plaît aussi de les putes se minier, se couiller minier, que par un mourir pour être mourir tout d'une coup, que serait contente.